Bonjour, nous sommes en direct de Radio 100% lycéen à Charles-Péguy et nous poursuivons notre programme avec le sujet d'astronomie de Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers tel qu'il était avant, la genèse de l'univers, d'aujourd'hui, de quoi il est composé, et de demain. Donc je vais d'abord aborder la genèse de l'univers, ou plus connue sous le nom de Big Bang. Donc c'est une théorie qui a été prouvée vers la moitié du XXe siècle. Avant cet événement, l'univers n'était qu'une petite sphère infiniment compacte, avec une température infinie et infiniment dense. On n'a rien trouvé de plus précis jusque-là. Puis l'expansion de celui-ci a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années. Le premier dixième de millionième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde, ou 10^-43 secondes pour les adeptes, nommé temps de Planck, en l'honneur du physicien allemand, est une véritable énigme pour les scientifiques. Impossible de savoir ce qui s'est passé pendant cette ère, et les astronomes ne le sauront probablement jamais. Mais la suite est connue. Peu après a suivi ce qu'on appelle l'ère de l'inflation. L'univers a gonflé. Des atomes simples se créent, comme l'hydrogène, l'hélium, le lithium ou le béryllium, métal moins connu. Mais les autres, comme le bore, le silicium, le fer, et en particulier le carbone et l'oxygène essentiels pour la vie, plus complexes et plus grands, ne verront pas encore le jour. La température est trop descendue pour enclencher des fusions nucléaires permettant de construire des atomes plus volumineux. 100 millions d'années après le Big Bang, les étoiles se forment, composent les galaxies. Les étoiles sont de véritables réacteurs nucléaires qui ont permis l'apparition des atomes que j'ai cités précédemment de carbone, silicium, oxygène, hélium, mais aussi magnésium, calcium et fer. Il s'agit du cosmos que l'on connaît aujourd'hui.
Maintenant, une petite pause musicale avec ce morceau de Sting.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Thank you.
C'était Every Breath You Take. Reprenons maintenant avec Daniel pour la suite de notre émission.
Bien, je vais maintenant pouvoir aborder la composition actuelle de l'univers. Donc, en ce moment, l'univers repose sur 7 éléments fondamentaux, dont 4 principaux et 3 composés. D'abord, le plus simple et le plus connu d'ailleurs, la planète, un petit amas de matière pouvant être gazeux, comme Jupiter ou Saturne, ou solide, comme la Terre, Mercure et Mars. Après, on a l'étoile, comme le Soleil, un réacteur nucléaire lumineux extrêmement chaud, au moins 4 millions de degrés dans le noyau, notre Soleil à 15 millions de degrés dans le noyau, qui permet les fusions nucléaires. Il existe 4 types d'étoiles. Les naines brunes, petites étoiles mornées très peu brillantes. Les naines rouges, petites étoiles très nombreuses dans l'univers et dotées d'une grande longévité, des centaines de milliards d'années. Je rappelle que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années. Les étoiles moyennes, du même type que notre Soleil. Et enfin les supergéantes bleues, monstres colossaux ayant une vie très courte, des dizaines de millions d'années, et qui peuvent engendrer d'autres monstres cosmiques comme les trous noirs. Après, un autre élément, moins connu mais pourtant très présent, la nébuleuse. Un nuage de gaz qui donne naissance aux étoiles. La plus proche de nous s'appelle la nébuleuse de Magellan. Après, on a le trou noir, un astre très très compact et dense, absorbant tout ce qui se trouve à proximité, même la lumière, d'où sa couleur noire. Celui au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius A étoile. Il existe 4 types de trous noirs. Les micro-trous noirs, ceux qu'on peut reproduire dans de grands instruments comme le LHC en Suisse qui permet de manipuler les particules et qui ne durent que quelques microsecondes. Les trous noirs stellaires qui sont causés par la mort de très grosses étoiles, les supergéantes bleues. Les trous noirs intermédiaires, la raison scientifique est encore inconnue, on ne sait pas d'où ils viennent. Et enfin, les trous noirs supermassifs qui siègent au cœur des galaxies, comme celui que je viens de citer. Justement ensuite, la galaxie, qui est un assemblage d'étoiles, de planètes gravitant autour de petits trous noirs stellaires épars et de nuages de gaz. Elle possède souvent en son centre un trou noir supermassif. Également un amas d'étoiles, un regroupement d'étoiles très très chaud où les astres sont très proches les uns des autres. Et puis l'amas de galaxies, comme son nom l'indique, c'est un regroupement de galaxies proches les unes des autres, se déplaçant en un seul bloc.
Nouvelle petite pause musique, nous reprendrons dans quelques instants.
Comprendrais-tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Sur la bouche, je t'emmène hors des villes, en un fort, une presqu'île. Oubliez nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats. Je t'ai revers au retour de tous nos plus beaux discours. Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas. Et devenir sourd. De la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins faits. Et tes larmes retenues.
C'était l'excellent morceau L'autre Finistère des Innocents. Maintenant, voici la dernière partie de l'histoire de l'univers de Daniel.
Bien, donc je vais terminer par les futurs supposés de l'univers. Donc on a trois principaux scénarios sur la table. Un quatrième est également envisagé, mais bon, il est plutôt fantaisiste. Il faut préciser que dans les trois cas, ça va mal finir pour nous. Donc, d'abord, la première hypothèse, la plus probable d'ailleurs, s'appelle le Big Freeze ou Big Chill. L'univers continue son expansion à la même vitesse jusqu'à ce que toutes les étoiles meurent et que l'univers devient une vaste étendue plongée dans l'obscurité et le froid total. Oui, bon, désolé. On appelle ça le grand refroidissement en français. Deuxième hypothèse, le Big Rip. L'univers continue son expansion jusqu'à ce qu'elle accélère subitement. Ce sera le grand déchirement. Tous les corps célestes seront détruits et l'univers finira, de toute façon, comme un monde noir et froid désert. Également, moins probable, mais possible également, le Big Crunch. L'univers va diminuer de taille jusqu'à redevenir une minuscule sphère de température infinie, comme avant le Big Bang. Et enfin, dernière hypothèse, mais très controversée, qui se nomme le Big Slurp, ou le grand aspirement. L'univers entre en contact avec un autre univers et se fait aspirer par lui. À vrai dire, on ne sait même pas si d'autres univers que le nôtre existent. De plus, pour établir cette hypothèse, il faudrait que l'univers ait des limites, alors qu'on pense depuis longtemps qu'il est infini. Mais dans tous les cas, ça finira mal, comme je l'ai déjà dit. Soit dans un désert froid, soit dans un désert froid et noir, soit tout le monde sera détruit.
Eh bien, merci Daniel de vos explications.
Désolée pour les mauvaises perspectives.
Oh, ça va, on a encore quelques années à vivre.
Oui.
Maintenant, laissons la parole aux secondes 12 pour les femmes et le numérique.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, sur Radio 100% Lycée du Centre Val-de-Loire, en direct du lycée Charles Péguy. Je suis Robin et je serai le présentateur du NeuroQuiz. Je suis actuellement accompagné de Sacha et Juliette, deux élèves de la CogniClass. Bonjour Juliette, bonjour Sacha.
Bonjour.
Alors, du coup, Sacha, pouvez-vous nous dire ce qu'est une CogniClass ?
Une CogniClass est une classe dans laquelle l'équipe enseignante met en place de nouvelles méthodes pédagogiques éclairées par des apports de connaissances sur les sciences cognitives et par des formations suivies par les professeurs.
Alors, Sacha, quel a été le ressenti global de la classe à l'annonce de ce projet ? Y a-t-il eu des peurs, des appréhensions ?
Nos premières impressions étaient plutôt négatives. Globalement, nous étions tous confus, mais les professeurs ont essayé de nous rassurer. Mais lorsque l'on a vu qu'il n'y avait pas énormément de changements par rapport à une classe normale, nous étions plutôt rassurés. Cependant, il y avait quand même quelques petites différences, comme les ateliers, les apports de connaissances sur les sciences cognitives et les méthodes développées, surtout en SVT et en physique-chimie. Nous avions peur d'avoir plus de cours, peur d'être assimilés à des élèves en difficulté ayant de mauvais résultats ou de l'aide était indispensable. Puis, nous nous sommes demandé si cela était semblable à du soutien pour l'apprentissage.
Qu'est-ce que ce projet vous a concrètement apporté jusqu'à présent ?
Ça nous a beaucoup apporté des connaissances sur le cerveau et son fonctionnement, comme sa façon de mémoriser qui est sélective, de nouvelles méthodes d'apprentissage, apprendre à prendre des notes. Et grâce à l'Escape Game, nous avons appris la vérité sur les neuromythes auxquels nous avions cru auparavant.
Après avoir testé la CogniClass, finalement, auriez-vous préféré ne pas faire partie du projet ?
Nous avons deux avis mitigés. Le premier est oui, c'était super. Les professeurs ont essayé de nous aider et de nous encourager. Nous avions des possibilités de rattrapage, des contrôles intermédiaires pour nous préparer aux vrais contrôles et des corrections avec des points supplémentaires. Le deuxième avis est non. Cela ne change pas beaucoup de notre vie à l'école au sein de toutes les autres classes.
J'ai appris que lors de votre journée d'insertion, vous avez construit un pont inventé par Léonard de Vinci, uniquement fabriqué à l'aide de bois, sans clous, sans attache pour le maintenir, et que vous avez également débattu pour choisir le logo de la CogniClass. Vous avez également interagi ensemble avec votre classe. Qu'en avez-vous pensé ?
Je vais vous lire quelques avis de mes camarades. C'était pas mal, on a pu découvrir de nouvelles choses. C'était drôle et ça nous a obligés à communiquer avec ceux que l'on venait de rencontrer. Au début, on ne comprenait pas trop pourquoi on faisait ça, mais au final, c'était pas mal. On est entré en contact avec les autres beaucoup plus rapidement et on a su créer des liens. Résultat, on s'entend tous très bien dans la classe. C'était trop bien et ça nous a permis de mieux nous intégrer.
Plus tôt dans votre témoignage, vous nous avez parlé d'un escape game. Juliette, pouvez-vous nous parler de cet escape game en question, s'il vous plaît ?
Oui, alors d'abord je vais définir ce qu'est un escape game. Donc un escape game est un jeu d'énigmes qui se vit en équipe. Les joueurs évoluent généralement dans un lieu clos et thématisé. Ils doivent résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à s'échapper ou à accomplir une mission. L'escape game, fait au lycée, portait sur les neuromythes. Un neuromythe est une fausse croyance non fondée scientifiquement sur le fonctionnement du cerveau et sur l'apprentissage. Les joueurs incarnaient un groupe de scientifiques se retrouvant dans un laboratoire, le laboratoire du célèbre professeur Aristote Ciboulot. En 30 minutes, les joueurs devront retrouver 5 neuromythes que le professeur a égarés. L'équipe était composée de 5 lycéens de seconde 12. Chacun avait une tâche à faire. Il fallait fouiller partout dans la chambre pour trouver des indices et résoudre les énigmes. Par exemple, il fallait trouver des clés pour ouvrir des boîtes, un coffre-fort et une armoire à pharmacie. Il fallait trouver aussi des codes pour ouvrir des tablettes et un petit coffre en bois. Le but pour nous était de trouver les 5 neuromythes qui représentaient les 5 chiffres du code final qui permettaient d'avoir la clé pour sortir de la pièce.
Merci Juliette. Nous allons du coup sans transition passer au neuroquiz. Mais tout d'abord, nous allons écouter Memories de Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back
back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. Memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back memories, bring back your.
Nous sommes de retour pour le NeuroQuiz. Alors tout d'abord, je vais vous présenter, enfin nos participants pour le jeu vont se présenter en quelques mots. Léna, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Léna, je suis en première G2 au lycée Charles Péguy. J'ai pris les spécialités cette année SVT, mathématiques et physique-chimie.
D'accord, merci. Et Mine, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
D'accord, bonjour, je m'appelle Mine, je suis en G6 et j'ai pris les spécialités mathématiques, SVT et physique-chimie.
Merci beaucoup Mine et Léna. Alors du coup je vais vous expliquer les règles du jeu, c'est très simple. On va vous poser une série de questions, chacun à votre tour vous allez dire votre nom puis répondre avec ce que vous pensez être le plus juste. Ensuite une correction ou un éclaircissement de votre réponse va vous être donné. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Oui.
D'accord. Alors, la première question, entre combien de tâches maximum le cerveau peut-il basculer ?
Léna, 3.
Mine, 5.
Alors, Sacha, pouvez-vous nous...
Le cerveau peut basculer entre 2 tâches maximum, en plus de tâches automatisées, écouter de la musique, etc. En effet, la zone préfrontale, située en l'avant du cerveau, est semblable au commutateur d'un ordinateur et permet au cerveau de basculer entre 2 tâches simultanément à une vitesse qui varie entre 0,1 et 0,25 secondes.
Merci Sacha. Alors du coup, pas de points pour l'instant, mais vous pouvez peut-être vous rattraper avec la deuxième question. Que se passe-t-il quand on soumet plus de 2 tâches au cerveau ?
Je sais pas.
Je passe.
Eh bien, Juliette.
D'accord. Alors, c'est pas grave. Si on soumet une troisième tâche au cerveau, on risque une perte de vitesse, de réactivité et de réaliser des erreurs dans l'activité concernée. Un bug, en fait, si vous voulez.
Merci. Du coup, la troisième question peut être plus simple. Les hommes et les femmes ont-ils le même cerveau ?
Léna, oui.
Mine, oui.
Eh bien, Sacha.
Tout d'abord, il faut retenir que chaque cerveau est unique et que la taille de celui-ci n'impacte pas les capacités d'une personne. En effet, il s'est avéré que le cerveau d'Albert Einstein était plus petit que la moyenne. Donc non, les hommes et les femmes n'ont pas le même cerveau, car personne n'a le même cerveau. Cependant, de manière globale, nous avions tous les mêmes capacités. Les hommes et les femmes ont donc les mêmes capacités à réaliser plusieurs tâches en même temps, soit 2 au maximum pour ne pas perdre en efficacité.
Alors c'était un peu une question piège, mais du coup, je vais quand même vous compter des points parce que oui était la bonne réponse. Il n'y a pas trop de différence entre chaque cerveau. Alors, la quatrième question, existe-t-il des personnes avec une mémoire visuelle ?
Léna, oui.
Mine, oui.
Eh bien, Juliette ?
Alors, non, c'est un neuromythe, car aucune recherche ou aucune expérience n'a prouvé cette croyance. En effet, certaines personnes peuvent préférer un mode d'apprentissage, mais celui-ci ne va pas le rendre plus facile ou plus rapide. L'apprentissage peut néanmoins être plus efficace en utilisant plusieurs méthodes d'apprentissage.
Merci Juliette. Alors, nous allons passer à la cinquième question. Utilisons-nous seulement 10% de nos capacités cérébrales?
Non.
Léna, oui.
Alors, la réponse était non. Une étude vient... nous utilisons 100% des capacités de notre cerveau. Cela a été prouvé scientifiquement avec notamment l'analyse microstructurale et les observations contestant le célèbre mythe des 10%. En effet, l'imagerie cérébrale nous montre qu'on utilise bien 100% de notre cerveau, affirme Christophe Rodeau. Aucune zone du cerveau inutile, donc aucune partie silencieuse, ni aucune capacité dissimulée dans la complexité subtile de notre substance grise.
Merci pour toutes ces informations. Sixième question à présent. Est-ce qu'il existe des personnes plus cerveau gauche que cerveau droit?
Léna, non.
Non.
Eh bien,
Sacha?
En effet, celui-ci était aussi un neuromythe. Une étude vient couper court à ces idées reçues en démontrant que les hémisphères du cerveau, bien que différentes, sont activées de la même façon et ne définissent pas les personnalités.
Merci Sacha. Septième question à présent. La mémoire de travail est-elle limitée en place?
Léna, oui.
Mais non.
Eh bien, Sacha?
Oui, en effet, on dit qu'elle est en pan-mensnique. La mémoire de travail est aussi limitée en temps. On dit qu'elle est à court terme.
D'accord, je ne savais pas non plus. J'apprends des choses en même temps. Question numéro 8. Utilisons-nous 100% des capacités de notre cerveau en même temps?
Léna, non.
Non.
Alors non, effectivement, nous utilisons toutes les capacités de notre cerveau, mais pas au même moment.
Question numéro 9. L'activité physique peut-elle rendre notre cerveau plus efficace?
Léna, oui.
Oui.
Sacha?
D'après un article publié dans une revue scientifique, l'activité physique peut en effet rendre notre cerveau plus efficace. On choisit 10 paires de jumeaux et à chaque fois, une des deux ne pratiquait pas d'activité sportive. On a remarqué que les jumeaux sportifs avaient plus de matière grise que les autres. La différence est particulièrement marquée dans les zones impliquées dans la motricité et la coordination.
Dixième et dernière question. Peut-on ne plus pouvoir apprendre après un certain âge?
Léna, non.
Oui.
Et Juliette, pouvez-vous éclaircir son orbite?
Alors, oui, on peut apprendre jusqu'à la fin de sa vie car le cerveau est plastique. On parle de neuroplasticité ou de plasticité cérébrale. La neuroplasticité, c'est le fait de créer des connexions cérébrales ou neuronales en apprenant et en répétant. Ce neuromythe est lié au fait qu'il y a des périodes où cette plasticité est plus facile, notamment pendant l'enfance.
Merci à Sacha et à Juliette pour toutes ces informations. Merci également à Léna et à Amine d'avoir participé à notre NeuroQuiz. C'est la fin pour moi. Je vous dis donc au revoir. Nous allons maintenant écouter La Grenade de Clara Luciani.
Blafarde. déguisé en matin.
Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct sur Radio 100% Lycée. Donc la grande gagnante du Neuroquiz était Léna, bravo à elle. Donc maintenant nous allons donner la parole à Adam afin qu'il nous explique ce qu'est l'effet Mathilda. Adam, nous t'écoutons.
Les femmes ont été à l'origine d'innovations essentielles dans les technologies numériques. Elles ont toujours pas accès, comme les hommes, à ce secteur qui est économique en termes d'emploi et d'accès aux compétences. Elles ont moins de chances d'obtenir un poste dans le secteur du numérique que les hommes. L'écart entre les hommes et les femmes s'est uniquement réduit pour les compétences basiques d'utilisation d'Internet, passant de 10,5% en 2015 à 7,7% en 2019. Dans les années 80, l'historienne des sciences, Margaret Rossiter, avait théorisé cette tendance des hommes à minimiser ou à s'attribuer les découvertes et les inventions des femmes. Elle avait appelé effet Mathilda en référence à une militante féministe, Mathilda Jocelyn Gage, qui avait observé cet état des faits au XIXe siècle. L'apport des femmes dans ce domaine a été énorme. Le réseau Wi-Fi, par exemple, que vous citiez peut-être pour écouter notre radio en ce moment même, a été inventé par une femme, Hedy Lamarr. En plus d'être actrice et productrice de cinéma américain, elle a créé dès les années 40, un système de codage des transmissions par étalement de spectre, autrement appelé la technique Lamarr, utilisée également à l'heure actuelle pour des liaisons chiffrées militaires et la téléphonie mobile. Hedy Lamarr ne fut reconnue pour son invention que rétroactivement en 1997, alors que l'armée américaine l'utilisait déjà dans les années 60. On a d'autres exemples de victimes de l'effet Mathilda, par exemple Milev Einstein, la femme d'Albert Einstein. Elle est née en 1875, elle est décédée en 1948, c'était une physicienne. En 1896, c'est la seule femme à travailler à l'Institut Polytechnique de Zurich. Elle va y rencontrer Albert Einstein et travailler avec lui. Ils finiront par se marier en 1903. Albert va publier plusieurs articles où ne figure que seulement que son nom. Il parlera de leur travail commun uniquement dans des lettres privées. « Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux mené ensemble l'aide de 1901 » ou alors « Notre travail sur le mouvement relatif à une conclusion merveilleuse » aussi en 1901.
Mais Adam, parle-nous aussi de Lise Meitner.
Oui, en effet, Lise Meitner est une autre victime de l'effet Mathilda. C'était une physicienne. Elle est née en 1878 et décédée en 1968. Elle est partie pour Berlin en 1907. Là-bas, seules quelques femmes sont autorisées à effectuer des recherches. À côté de ses travaux en physique nucléaire, elle collabore avec deux hommes, Otto Hahn et Fritz Strassmann, sur le projet Uranium. Ils vont réussir à fragmenter l'uranium en 1938, mais en 1944, seuls les deux hommes obtiennent le prix Nobel de chimie. Ensuite, leurs travaux vont conduire à la création de la bombe atomique, alors que Lise Meitner s'était toujours battue contre cela.
Est-ce que tu peux nous parler de Rosalind Franklin ?
Rosaline est encore un autre exemple de victime de l'effet Mathilda, c'était une chimiste. Elle est née en 1920 et décédée en 1958. Elle travaille au King's College de Londres et se consacre à la structure de l'ADN. Elle détermine la structure de l'ADN en hélice grâce au cliché 51, ce qui va totalement à l'encontre des modèles ADN établis par le docteur Maurice Wilkins. À son insu, le docteur va montrer les clichés de Franklin à d'autres chimistes. En 1953, elle va quitter le King's College et elle va devoir y laisser tous ses travaux. James Watson, Maurice Wilkins et Francis Crick continuent à travailler sur l'ADN et en 1962, ils vont obtenir le prix Nobel de médecine, ce qui n'aurait pas été possible sans Rosalind. Elle décède malheureusement 2 ans plus tôt à cause d'une surexposition aux radiations.
Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples dérivés de l'effet Mathilda ?
Oui, on a par exemple le mansplaining. Pour donner un exemple, on a une historienne et essayiste américaine, Rebecca Solnit, qui avait écrit un livre. Elle était dans une soirée et un homme a prétendu savoir mieux qu'elle le livre, en savoir beaucoup plus qu'elle sur le livre qu'elle a elle-même écrit. Elle en a tiré un article publié en 2008 dans le Los Angeles Times et ça a donné naissance au terme mansplaining et à un ouvrage. Qui s'appelle « Ces hommes qui m'expliquent la vie ».
Est-ce que tu peux nous parler des femmes dans l'univers du scientifique, s'il te plaît ?
Oui, dans l'univers scientifique, être l'auteur d'un article ou être mentionné en début de page permet de se faire connaître et de faire progresser sa carrière, alors qu'être mentionné dans les remerciements est peu valorisant, voire pas du tout. Une équipe d'étudiants de San Francisco a épluché l'équivalent de 20 ans de lettres de remerciement, dans lesquelles des dizaines de femmes, dont les innovations ont été essentielles, ont été mentionnées. Certaines apparaissent dans les remerciements de plusieurs articles, mais n'ont jamais été reconnues comme auteurs. Elles ont littéralement été réduites à des notes de bas de page, même quand elles ont contribué à l'écriture des articles en question. Dans les années 1970, soit à l'époque où les fondations de la recherche actuelle ont été bâties, seules 7% des femmes ont été mentionnées comme auteurs, alors qu'elles représentaient 59% des programmeuses mentionnées dans les remerciements. À cause de tout cela, il est aussi difficile de déterminer la répartition des contributions qui ont été effectuées dans les coulisses. C'est très semblable à l'effet Mathilda et on a un exemple très récent. C'est Jocelyn Bell, c'est une astrophysicienne. Elle est née en 1943, elle est encore vivante, elle a 78 ans. Quand elle était étudiante, elle a participé à la construction d'un radiotélescope qui étudie les quasars, des ours célestes. En 1967, elle remarque quelque chose d'anormal. En effet, elle va détecter des signaux étranges et elle va obtenir des séances de bip très réguliers par rapport à... Ça ressemble à du morse rapide ou à de la télégraphie. Elle va se demander si ce n'est pas un message codé provenant d'une ours céleste. Et contre l'avis de son patron, Anthony Ewish, elle va continuer ses recherches et découvrir les pulsars. Des sources de rayonnement électromagnétique. La découverte est publiée sous le nom de son patron et en 1974, il obtient le prix Nobel de physique sans qu'elle ne soit associée au prix.
D'accord, merci beaucoup Adam. Maintenant, laissons la parole à Lucille qui va nous expliquer plus en détail l'effet Mathilda avec un exemple, Ada Lovelace.
Merci Zoé. Ada Lovelace fait partie de ces nombreuses femmes scientifiques dont les travaux ont longtemps été volés ou oubliés et qui sont encore peu connues aujourd'hui. Pourtant, elle est l'une des premières personnes, si ce n'est la première, à créer un programme informatique. Mais repartons du début. Qui est Ada Lovelace ? Ada Lovelace est née au 19e siècle à Londres. Elle vient d'un milieu cultivé, son père étant le célèbre poète Lord Byron, et sa mère Anne-Isabella Milebank, une baronne. À peine quelques mois après sa naissance, sa mère quitte Lord Byron en emmenant sa fille avec elle. Ada s'intéresse aux sciences dès son plus jeune âge, encouragée par sa mère, elle-même férue de mathématiques, et par ses différents tuteurs et précepteurs. Certains regardèrent cet intérêt avec étonnement et suspicion, les sciences étant, à cette époque, une discipline réservée aux hommes, les femmes n'étant pas dotées, selon eux, de capacités cérébrales suffisantes. Finalement, et malgré une santé fragile, Ada obtint un impressionnant savoir en mathématiques. Âgée de 17 ans, elle fait la rencontre de Mary Somerville, une astronome, qui va changer sa vie en lui faisant rencontrer Charles Babbage, aujourd'hui considéré comme le père de nos ordinateurs modernes. Babbage lui permettra d'approfondir et de consolider ses connaissances en sciences, et ce fut entre eux le début d'une longue et précieuse relation amicale qui dessina l'avenir de l'informatique. Ils correspondirent pendant près de 10 ans, et grâce à cette correspondance, Ada assista à la création de la première calculatrice et découvrit le projet plus ambitieux de Babbage, une machine analytique, ébauche du premier ordinateur. Elle suivit de très près le développement de ce projet. Mais en 1835, excusez-moi, elle se marie avec Lord Lovelace et a 3 enfants. En plus de ses obligations familiales, ses grossesses l'affaiblirent beaucoup et l'atteinrent loin des mathématiques pendant plusieurs années. Mais loin de se laisser décourager par ses obligations et par les codes de l'époque, qui disaient qu'une mère devait rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, elle reprend en 1839 ses activités. Elle s'associe avec Morgan, un professeur et mathématicien de renom, et approfondit encore plus son savoir. 3 ans plus tard, un article sur la machine analytique de Babbage paraît en français. On propose à Ada, qui avait à cette époque un très bon niveau en français, de le traduire. Elle passa 9 mois à cette traduction. Quand elle la présenta à Babbage, ce dernier, impressionné, lui demanda pourquoi elle n'avait pas fait elle-même les mémoires de cette machine et lui proposa de compléter l'article de ses propres découvertes. Elle se lança alors dans son travail et rédigea des notes de A à G avec l'aide de Babbage. Ces notes étaient bien plus étoffées et expliquaient toutes les possibilités de la machine, son fonctionnement détaillé et des possibilités d'emploi. Parmi ces notes se trouvait la première ébauche d'un algorithme comme on en connaît aujourd'hui, avec un langage propre à la machine. Ce programme devait servir pour calculer les chiffres Bernoulli, une séquence mathématique très complexe. Certains disent que ce programme, et les notes en général, viennent plus de Babbage, ce dernier ayant supervisé et aidé Ada dans la rédaction de ces notes. Pourtant, plusieurs écrits prouvent que Babbage n'a fait que fournir les formules mathématiques. Dans ses notes, Ada développe une version visionnaire de ce que pourrait faire la machine de Babbage, comme composer des morceaux de musique, par exemple, chose réalisée en 1951. Malheureusement, la fabrication de la machine fut arrêtée par manque de subventions. Pour remédier à ce problème, Ada s'essaya au jeu hippique, persuadée que sa connaissance des probabilités pouvait la faire gagner, et dilapida toute sa fortune. Elle meurt âgée de 36 ans du cancer de l'utérus. Après sa mort, ses travaux furent oubliés jusqu'à l'arrivée de l'informatique. Un programme fut nommé en son honneur et sert encore aujourd'hui. Ada Lovelace était une grande femme, dans le sens où, sans s'occuper des codes de son époque et des a priori, elle a su saisir sa chance de faire ce qu'elle aimait. Elle s'est entourée des bonnes personnes qui l'ont soutenue et aidée dans ses différents projets et ne s'est jamais laissée décourager, même par sa santé fragile. Que ce soit pour des personnes s'intéressant aux mathématiques ou pas, Ada est un exemple de détermination, de courage, de curiosité et de liberté.
Merci Lucille de ces explications. Nous vous retrouvons tout de suite après Out of My Mind de Three Eyes pour la non-diversité des rédacteurs dans Wikipédia. A tout de suite!
Do me, oh, she's got to be. 어둠 속에 다이아몬드 나야 빛.
Donc, rebonjour à tous, nous sommes toujours en direct sur Radio 100% Lycée.
Est-ce que maintenant, Zoé, tu pourrais nous parler de la non-diversité des rédacteurs sur Wikipédia ?
Alors, bien sûr, nous allons parler de Jess Wade. C'est une physicienne qui a fait parler d'elle dans un article dénonçant la non-diversité dans les rédacteurs de Wikipédia. Nous allons d'abord voir quels sont ses engagements sur le sujet et pourquoi elle milite contre cela. L'article nommé « Il y a d'étranges luttes de pouvoir dans Wikipédia », publié dans le journal Courrier International, a pour sujet la non-diversité des auteurs de l'encyclopédie libre. En effet, Jess Wade, une des rédactrices de Wikipédia, s'est faite signaler de nombreuses fois de ses articles, jugés insuffisants ou encore car ils ne méritaient pas l'attention suffisante.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne plus précisément Wikipédia ?
Bien sûr, Wikipédia est une encyclopédie universelle créée par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001. Elle vient donc de fêter ses 20 ans. Il s'agit d'une œuvre libre et collaborative, très populaire, c'est-à-dire que chacun est libre de la rediffuser. Elle permet à tous les internautes d'écrire et de modifier des articles.
Mais revenons à Jess Wade, est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément d'elle ?
Bien sûr ! Depuis 2018, elle a comme but de vulgariser davantage et représenter le travail des femmes et des personnes de couleur sur la plateforme. Selon elle, les scientifiques faisant partie de la communauté LGBT ou étant handicapés ont moins de chances de posséder de pages Wikipédia. Par ailleurs, elle est consciente que toute personne ne peut pas être représentée, mais le problème est que les critères ont été construits de façon à laisser davantage de place aux hommes mâles blancs occidentaux qu'aux autres scientifiques. Ainsi, publier dans l'industrie de la littérature scientifique serait plus approprié à ce type d'individu. En outre, elle pense que certaines personnes qui sont très bien placées se permettent de signaler ces articles et de décider de ce qui doit être publié ou non sur Wikipédia. Cela laisse penser à l'effet Mathilda, dont nous a parlé Adam tout à l'heure. Il s'agit du déni et l'appropriation des hommes des sujets scientifiques ayant été écrits par des femmes.
Et est-ce que la différence de traitement entre les hommes et les femmes se retrouve dans d'autres domaines technologiques ?
Alors oui, la plupart des agents conversationnels possèdent des voix féminines, telles que celles de Siri d'Apple ou d'Alexa d'Amazon. Par ailleurs, ce n'est pas parce que les voix féminines sont plus simples à synthétiser, mais parce que des équipes de développement informatique ont jugé plus agréable d'interagir avec une voix de femme quand il s'agit de répondre à des ordres. Mais encore, plusieurs objets sont façonnés par et pour les hommes, comme les téléphones portables qui au début étaient adaptés pour une main d'homme.
Mais dis-moi Zoé, je joue à des jeux vidéo et j'ai entendu dire que près d'un gamer sur deux est une femme. Est-ce que c'est vrai ?
Alors oui, en effet, les femmes entre 20 et 35 ans représentent une part plus importante que les hommes quand il s'agit de jouer à des jeux vidéo. Cependant, les jeux dits « pour les femmes » sont le plus souvent des jeux dont les parties sont courtes, gratuites et qui demandent peu de réflexion. Quant aux jeux dits « pour les hommes » sont souvent payants et les personnages féminins sont la plupart du temps hypersexualisés. Cependant, la société commence à changer et les femmes commencent à apparaître et à devenir plus nombreuses dans ce domaine. Mais il reste toujours une part de la société qui exclut les femmes de certains jeux. Nous vous laissons maintenant écouter Balance ton quoi d'Angèle. Nous vous retrouvons ensuite.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Thank you.
peut-être ça changera.
Rebonjour, nous sommes toujours dans la radio 100% lycée. Nous allons maintenant parler du sujet de Sacha. Il s'agit du danger d'Internet. Donc le 9 février 2020 aura lieu le Safer Internet Day, la journée internationale de sensibilisation aux usages du numérique, à destination des élèves, des familles, des professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance. Nous laissons donc la parole à Sacha, qui va nous parler des dangers d'Internet.
Rebonjour à tous. Comme l'a très bien dit Zoé, aujourd'hui je vais vous parler des différents types d'attaques contre le réseau Internet. Tout d'abord, je vais vous parler des différents types d'attaques qui reviennent le plus souvent et leur mode de fonctionnement. Ensuite, je vous expliquerai comment lutter contre la cybercriminalité et comment protéger vos informations personnelles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une cyberattaque ou piratage ? C'est une attaque via le réseau Internet qui dérobe ou endommage des informations grâce à un programme informatique. Ce n'est pas forcément une faille dans votre système, mais plutôt un manque d'attention et de vigilance. Comparé à ce que l'on pourrait penser, les cyberattaques sont beaucoup plus fréquentes et peuvent toucher chacun d'entre nous, mais en particulier les grandes entreprises comme Netflix. L'informatique évolue constamment et de nos jours, il devient impératif de bien se protéger sur le web. Il existe plusieurs types de hackers ou pirates, avec chacun une façon différente d'entrer dans un ou plusieurs systèmes informatiques. Les types d'attaques et leur fonctionnement. Mon papa est gérant d'un garage Renault à Olivet et il a été victime plusieurs fois d'un rançongiciel. C'est une technique très fréquente. Quelqu'un que l'on appelle un malware pirate un ordinateur ou un serveur et demande une rançon. Tant que le hacker n'a pas reçu l'argent, les données et les ordinateurs sont bloqués. Le phishing consiste à demander à une personne de modifier son mot de passe ou à fournir des informations personnelles via un email. Où le hacker s'est fait passer pour une banque ou un service de messagerie. Exemple, votre colis vient d'arriver, dernier appel pour récupérer, cliquez sur le lien, blablabla. Exemple, ma mamie s'est fait bloquer son compte bancaire car un message sur Facebook avec le nom de ma maman lui a demandé d'appeler un numéro et de lui verser de l'argent car son compte à elle était soi-disant bloqué. L'attaque Man in the Middle, MITM, qui veut dire l'homme du milieu, HDM, est une cyberattaque qui consiste à intercepter les données échangées entre un client et un serveur. Exemple, quand vous, le client, envoyez des informations sur le site de votre banque, le serveur. L'HDM récupère vos données et les réutilise à votre insu. Il existe aussi des logiciels malveillants. Ce sont des logiciels installés sur l'ordinateur de son utilisateur sans son consentement et qui a pour but d'infecter vos données. Il y a plusieurs types de logiciels. Les virus furtifs, qui attaquent les antivirus pour qu'ils ne les détectent pas. Les logiciels espions, qui récoltent des informations sur l'ordinateur. Le cheval de Troie, qui se cache dans d'autres logiciels et attaque un système pour accéder à l'ordinateur. Les virus micro envahissent des fichiers Microsoft et compromettent les données. Et les vers, qui se propagent dans les emails. Mais comment protéger vos informations personnelles ? Tout d'abord, le plus fréquent et le plus simple, car la plupart des applications en demandent un, c'est le mot de passe. L'écrire sur un papier et pas sur un téléphone, car s'il est volé ou perdu, cela ne sera plus possible. Il est aussi conseillé d'avoir plusieurs mots de passe qui comportent un chiffre, une majuscule ou une lettre. Sauvegarder. Il est possible de restaurer des données perdues grâce aux sauvegardes effectuées. C'est le protecteur le plus efficace contre les logiciels malveillants, comme le rançongiciel. Il faut savoir reconnaître une cyberattaque. Les faux emails sont très utilisés. Ils prennent souvent le nom d'une grande entreprise, mon exemple avec La Poste, où ils vous demandent de cliquer sur un lien. Vous êtes ensuite amené à inscrire des informations personnelles qui sont récoltées et exploitées. Alors, ça peut être bête, mais vérifiez les fautes d'orthographe sur un site. Vérifiez la structure de l'adresse email et si l'URL du lien commence par HTTPS. Tapez d'abord manuellement le lien sur votre barre de recherche. Utilisez un VPN qui permet de chiffrer vos données en les rendant incompréhensibles aux hackers. Et enfin, évitez de vous connecter au réseau public lorsque vous communiquez ou saisissez des informations privées, dans les lycées ou les cafés. Bref, beaucoup de personnes pensent que l'informatique c'est compliqué. Mais les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces pour se protéger et chacun peut donc lutter seul contre la criminalité.
Merci beaucoup Sacha. La session de la classe de 212 est maintenant terminée. Je remercie tous les rédacteurs de cette classe, qui sont Héloïse, Justine, Abdirahman, Lénora, Maxine, Kathleen et Méline. Merci à vous. Maintenant, je laisse la parole à Romain et Lucie, qui vont nous parler du 100% cadre de vie. Merci.
Alors bonjour à tous, je suis Romain, donc je suis avec Lucie, on est élève au lycée Charles Piggy et en direct de la radio lycée, 100% lycée. On est venu vous parler du projet 100% cadre de vie lycéenne. Alors c'est un budget participatif de 14 000 euros mis en place pour améliorer la vie lycéenne. Donc des projets d'élèves seront retenus et financés par la région. On va commencer par vous expliquer un petit peu les différentes étapes du processus.
Donc il y a eu plusieurs réunions dès le début de l'année en septembre avec notamment des élèves de DNMAID et en fait notre lycée a été choisi pour pouvoir participer à ce budget participatif. Ensuite il y a eu des réunions avec les délégués pour pouvoir trouver les participants aux réunions au COPIL et avec Romain on a décidé d'y participer parce qu'on était motivés par le CVL en fait de base et on trouvait que ce projet était bien plus intéressant avec plus de concrétisation et donc le COPIL est maintenant composé de deux élèves de DNMAID, de la professeure documentaliste et de trois autres intervenants du lycée et nous deux avec Romain qui sommes délégués et élèves de première.
Donc lors de ces réunions on essaye de décider ce qu'on va faire pour faire évoluer le projet. Donc ça nous apporte beaucoup.
Notamment parce que ça nous entraîne à nous faire des réunions. Là maintenant, on a eu l'occasion de participer à la radio et on a maintenant de plus ample capacité orale, notamment lorsqu'on doit proposer nos projets devant les élèves. Et donner tous les détails à l'oral pour nos projets.
Donc on est aussi mis en lien avec les autres lycées. Donc la semaine dernière, on a eu une réunion avec 5 autres lycées de la région qui ont aussi été choisis pour ce projet. Ça nous a permis de communiquer entre lycées. Ça nous a permis de nous positionner sur l'évolution du projet. Ça a été très intéressant pour voir comment ils se sont organisés, eux, pour faire émerger les idées. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est qu'on a, pendant une réunion en COPIL, créé un questionnaire qu'on a distribué aux délégués, donc en deux fois avec le semi-présentiel, et pour ensuite organiser des carrousels.
Donc les carrousels, on a fait des groupes d'élèves, c'était que des élèves délégués. On devait travailler sur des endroits du lycée, donner différentes idées pour pouvoir savoir quels étaient les projets à créer. Les élèves ont été impliqués dans les carrousels et c'était vraiment agréable de pouvoir travailler avec autant de personnes sur des projets pour notre lycée et qui vont juste l'améliorer. En plus, on a la chance au lycée Charles Péguy d'avoir des élèves de ST2A, donc des arts appliqués. On aura des projets créatifs aussi avec les DNMAID, c'est des élèves qui sont après le lycée. C'est une section qui se passe après le lycée et donc on a de nombreuses idées et des projets qui sont vraiment créatifs. C'est vraiment super pour le lycée. Donc pour la concrétisation de ces projets, donc Romain va vous présenter quelques projets qu'on a déjà mis en avant.
Alors c'est beaucoup de projets de rénovation, comme par exemple la rénovation du self, la rénovation des cours, des bancs dans la cour qui sont un petit peu abîmés. Le fait que ce soit les élèves qui décident des projets, ça permet de montrer les failles dans l'organisation du lycée ou les choses que les adultes ne peuvent pas vraiment voir parce que ils ont une organisation différente. Et donc il y a plein d'espaces qui peuvent être mieux utilisés dans le lycée, notamment des espaces verts qui sont un petit peu laissés en friche, le plateau sportif qui n'est pas beaucoup utilisé, excuse-moi. Et donc ces projets vont être concrétisées. Lucie, je te laisse t'expliquer.
Oui, donc on va créer des groupes de projets. Donc on a déjà commencé à demander à des élèves s'ils voulaient participer pour ces projets. Donc ils devront se concentrer sur un projet en donnant les budgets, dans quoi on met l'argent, etc. À la fin, une fois que tous ces projets seront bien expliqués, on va les faire voter aux élèves d'ici la fin de l'année. Ensuite, on pourra mettre en œuvre ces projets, chercher les professionnels pour créer ces projets. Donc là, pour l'instant, on a déjà deux groupes. Mais d'ailleurs, on profite de la radio aussi pour demander s'il y a des élèves de Charles Péguy qui nous écoutent, de venir nous contacter s'ils veulent s'occuper d'un projet comme Romain a cité juste avant. Donc ce projet, il nous a apporté, en tout cas avec Romain, nous on a trouvé que ce projet nous a apporté un dynamisme, surtout avec le semi-présentiel. On a pu s'impliquer dans des projets, etc. Et on donne la chance aussi aux élèves de s'impliquer dans des projets. De plus, le lycée va pouvoir être amélioré, les projets des élèves vont pouvoir passer à l'action et vraiment être à l'image du lycée. Donc on espère que notre intervention va pouvoir inspirer même d'autres lycées sur l'émergence de projets et le développement de l'imagination pour avoir des lycées qui nous ressemblent les élèves et soient exactement à notre image. Avec Romain, on vous remercie de nous avoir écoutés sur le projet 100% cadre de vie.
Merci à vous pour votre intervention. Notre session est donc finie. Nous vous souhaitons à tous une merveilleuse journée.